Oui, je n'ai aucun titre à participer à cette table-là, sinon le fait d'être ami de d'Hippolyte Simon et même d'avoir été son jeune professeur de liturgie à la fin du séminaire de Bayeux, avant qu'il arrive à Caen. Donc, il a intitulé son texte Paroisse et Église au pluriel dans notre société. Les organisateurs du colloque m'ont demandé de vous faire part de mon expérience et de mes réflexions d'évêque concernant l'avenir des églises et tout particulièrement des petites églises rurales. Ma réponse tient en quelques mots: la création de communautés de proximité qui maintiendront les divers usages possibles de ces églises. Alors, il va s'expliquer tout à l'heure sur ces communautés, mais avant de développer cette orientation, il me faut répondre à deux questions préalables. À qui appartiennent les églises et pourquoi l'Église catholique a-t-elle créé des paroisses nouvelles? Donc, à qui appartiennent les églises et les cathédrales? Et vous allez voir, sa réponse est très, très, très fine. La difficulté relative à la constitution des associations diocésaines et donc à la propriété des bâtiments et autres biens de l'Église catholique, ainsi que les étapes de son dépassement progressif, expliquent la complexité dont nous avons parlé, héritée de la loi de 1905. Dans la réalité, elle a conduit de facto à une forme d'imbrication qui est aux antipodes du projet initial de pure et simple séparation. Il se trouve en effet que devant les troubles suscités par les inventaires préalables au transfert des édifices du culte, et compte tenu du vide juridique créé par l'absence des associations prévues par la loi, les édifices cultuels catholiques sont devenus propriété de l'État pour les cathédrales et des communes pour les églises et les presbytères. Mais dans le même temps, ces édifices ont été affectés à titre exclusif et gratuit au culte catholique. Et cette situation d'imbrication de fait perdure jusqu'à aujourd'hui. Au-delà de cette bizarrerie juridique apparente, si l'on veut bien se donner la peine d'y réfléchir un peu plus profondément, il apparaît que la solution finalement adoptée est sans doute beaucoup plus satisfaisante qu'il n'y paraît. En effet, si nous posons la question: qui sont les propriétaires des édifices du culte catholique construits avant 1905? Nous pouvons répondre que ces propriétaires sont les ayants droit de ceux qui les ont construits. Compte tenu de la proportion des catholiques dans la société civile de l'époque, il apparaît que ces ayants droit constituent l'immense majorité des citoyens actuels de notre pays. Il convient donc de faire observer que ni l'État, ni les communes ne peuvent être considérés comme véritablement propriétaires de ces édifices, mais bien plutôt la nation. L'État et les communes se trouvent être dépositaires de ces biens, compte tenu du problème pratique posé à l'époque. En rigueur de terme, c'est l'ensemble des citoyens, et donc la nation, qui sont propriétaires de ces édifices. Il est donc assez normal que ceux-ci soient tenus à la disposition de tous les citoyens, quelles que soient leurs convictions personnelles. Mais il est normal aussi que ces édifices, construits comme édifices religieux, gardent cette destination sous peine de perdre toute leur signification. Ceci étant admis, il convient que tous les citoyens puissent se sentir chez eux dans ces édifices, que ce soit comme visiteurs ou que ce soit comme croyants. Il convient donc que l'Église et l'État s'accordent pour reconnaître et faciliter les droits des uns et des autres, et le succès des journées du patrimoine est à cet égard extrêmement encourageant. Vous voyez, c'est intéressant sur la propriété des édifices. Par ailleurs, pourquoi avons-nous fait des paroisses nouvelles? La prise en compte officielle des mutations de la société et les efforts poursuivis par l'Église pour s'y adapter ont culminé dans le mouvement synodal qui a déjà concerné les trois quarts des diocèses de France et conduit à une réorganisation du tissu paroissial. Ce regroupement se fait dans la pauvreté et sous la contrainte. Contrainte numérique du clergé et des fidèles, l'Église de France ne manque pas d'abord de prêtres et de religieuses, elle manque d'abord de fidèles pratiquants. Et ceux-ci ont commencé à diminuer avant que la pénurie de prêtres ne fasse sentir ses effets. Contrainte culturelle due aux nouveaux modes de vie, déplacements, loisirs, abandon de la presse confessionnelle, etc. Mais ce regroupement peut devenir une chance. La pauvreté peut être évangélique et évangélisatrice. Les regroupements de paroisses ou les paroisses nouvelles ont pour résultat de remettre en phase les deux géographies qui se sont séparées, vers 1960, celle des jeunes et celle des communautés ecclésiales. En effet, si l'on veut que les jeunes soient au centre du souci pastoral des communautés ecclésiales, c'est-à-dire des paroisses, il faut que celle-ci soit établie à l'échelle de la géographie spontanée des jeunes de 15 ans. Or, quelle est cette géographie ? C'est le bassin d'où viennent leurs amis du collège, ceux qu'ils retrouveront ensuite quand ils reviendront au pays. Cette recentration ne suffira pas pour proposer l'évangile aux jeunes de 15 ans, mais elle est un préalable nécessaire. Ces regroupements correspondent aussi aux recherches de la société civile, banque, commerce, pharmacie, administration. Ils correspondent également aux recherches des responsables politiques qu'ont fait les lois Chevènement et Voynet sur l'intercommunalité et sur les pays. Ils correspondent enfin aux moyens actuels de déplacement si l'on se donne la peine de s'organiser un peu. Selon le Concile de Trente, le curé devait visiter chaque année tous ses paroissiens. Il allait à pied ou à cheval. Et Hippolyte Simon dit « En 1950, pour aller à la messe, je mettais 20 minutes. Avec le regroupement des paroisses, y aura-t-il des diocésains à plus de 20 minutes d'une célébration eucharistique ?» Mais cette réforme du tissu paroissial, qui est une réforme de fond, car elle touche à un tissu qui a parfois 1000 ans, aura besoin d'acteurs nouveaux. Il faut espérer et susciter un renouveau des vocations sacerdotales et religieuses, si possible diocésaines. Il faut aussi favoriser une prise de conscience et une formation de laïcs de plus en plus nombreux, sans oublier les diacres permanents dans l'originalité de leur vocation. Et voilà la deuxième partie de son propos, la paroisse et ses communautés de proximité. Il commence par citer le pape François dans l'exhortation apostolique « La joie de l'Évangile ». La paroisse est présence ecclésiale sur le territoire, lieu de l'écoute de la parole, de la croissance de la vie chrétienne, du dialogue, de l'annonce de la charité généreuse, de l'adoration et de la célébration. À travers toutes ces activités, la paroisse encourage et forme ses membres pour qu'ils soient des agents de l'évangélisation. La paroisse, elle est communauté de communauté. Sanctuaire où les assoiffés viennent boire pour continuer à marcher et centre d'un constant envoi missionnaire, numéro 28. La belle expression « communauté de communauté » nous invite à réfléchir d'une manière renouvelée sur l'organisation et les activités de nos paroisses. Alors, il fait deux parties dans cette réflexion sur la paroisse et les communautés de proximité. D'abord, une réflexion de principe et ensuite des orientations. Sur les principes, alors il cite l'exemple de Clermont-Ferrand, « Depuis la Pentecôte 2002, date de la création des 32 nouvelles paroisses du diocèse de Clermont-Ferrand, nous avons mis l'accent surtout sur l'unité et l'identité de celle-ci. Aujourd'hui, 13 ans après, nous pouvons dire que d'une façon générale, les catholiques de notre diocèse se sont appropriés leur paroisse. Ils savent à laquelle ils appartiennent. Ils ont de la chance. » Nous pouvons même reconnaître que la mise en place de ces paroisses a été relativement rapide. Partout se sont créées des équipes d'animation pastorale, paroissiale, des conseils pour les affaires économiques et presque partout des conseils pastoraux de paroisse. Sauf exception, nous n'avons pas eu de demande pour rectifier la carte. Il est vrai que nous avons tenu compte du mieux possible des bassins de vie reconnus par l'INSEE. Et la tentation de constituer des isolats au sein d'une paroisse ne semble pas se manifester, même s'il reste bien des progrès à faire, pour donner à tous les catholiques de ce diocèse une meilleure conscience d'appartenir à une paroisse déterminée. Il convient maintenant de réfléchir à la manière dont nos 32 paroisses peuvent s'organiser en elles-mêmes pour garder le contact avec les réalités géographiques et sociales qui constituent leur bassin de vie. Un peu à la manière d'un équilibriste qui avance sur son fil et qui doit déplacer son balancier, nous devons aujourd'hui regarder plus attentivement comment nous restons en prise avec les diverses réalités de nos territoires. En plus des relais qui ont été établis dans la plupart des paroisses, nous pouvons prendre en compte trois sortes de communautés de proximité. C'est ça qui est intéressant dans cette réflexion. La proximité géographique. Surtout dans l'espace rural, les paroisses sont constituées d'un nombre variable de communes. Chaque commune dispose d'une église et parfois même de plusieurs clochers. Il y a donc des communautés de proximité qui peuvent se constituer autour de ces clochers. C'est cette proximité que je développerai davantage dans la réflexion à venir. Première proximité géographique. Ensuite, la proximité fonctionnelle. Lorsque des personnes sont réunies de façon stable pour un service permanent, par exemple dans les hôpitaux, les maisons de retraite, les EHPAD, les écoles, les collèges, les lycées, il convient que dans chacune de ces églises, de ces réalités, existe, si possible, une équipe d'aumônerie et d'animation pastorale. Ces équipes forment une communauté de proximité qu'il convient de reconnaître au plan de la paroisse. Pas seulement la géographie, mais des réalité de type fonctionnel. Et enfin, la proximité choisie. Sur le territoire d'une paroisse, des personnes peuvent choisir de se rassembler régulièrement dans une équipe en vue d'un service, d'une formation, d'un partage ou d'un engagement dans la société. Il serait bon que ces équipes soient connues et répertoriées au plan paroissial. Pour cela, il sera très utile d'établir un annuaire de la paroisse avec toutes les références des responsables de ces communautés, afin que toute personne qui cherche une adresse ou au moins un numéro de téléphone puisse le trouver. Il est important aussi que toutes ces communautés de proximité soient présentées à l'ensemble de la paroisse afin qu'elles soient officialisées, par exemple le jour d'une messe de rentrée. Ainsi, nos paroisses pourront-elles entrer dans cette recommandation du pape François dans son exhortation apostolique? Les autres institutions ecclésiales, communautés de base et petites communautés, mouvements et autres formes d'associations sont une richesse de l'Église que l'Esprit suscite pour évangéliser tous les milieux et secteurs. Souvent, elles apportent une nouvelle ferveur évangélisatrice et une capacité de dialogue avec le monde qui rénove l'Église. Mais il est très salutaire qu'elles ne perdent pas le contact avec cette réalité si riche de la paroisse, du lieu, et qu'elles s'intègrent volontiers dans la pastorale organique de l'Église particulière. Cette intégration évitera qu'elle demeure seulement avec une partie de l'Évangile et de l'Église, ou qu'elle se transforme en nomade sans racines. Alors, à partir de ces principes, quelques orientations. Toutes ces communautés de proximité ont donc un effort à faire, d'une part, pour se faire connaître sur la paroisse, et d'autre part, pour veiller à ne jamais oublier que la vie ecclésiale comporte trois dimensions, dont on a parlé déjà, témoignage, célébration et service. Chacune d'entre elles, chacune de ces communautés, met l'accent sur l'une des trois dimensions. Mais dans la société actuelle, il est sans doute important qu'elles veillent à garder ou à retrouver celles qu'elles auraient tendance à considérer comme moins importantes selon leur perspective. À cet égard, leur inscription dans la paroisse leur permettra de promouvoir ensemble les trois dimensions de l'expérience ecclésiale et aussi de mieux se faire connaître de toutes les personnes qui pourraient être intéressées par leurs propositions. Alors d'abord, orientation concernant les communautés ecclésiales de proximité géographique. Pour garder le contact avec les réalités civiles, il est nécessaire que la paroisse établisse et reconnaisse un correspondant paroissial dans chaque commune. Ce correspondant paroissial peut devenir responsable de la communauté de proximité établie autour de l'église communale. En plus de sa responsabilité vis-à-vis de la municipalité, cette personne devra veiller à s'entourer d'autres bénévoles pour l'entretien de l'église et son ouverture. Elle devra aussi veiller à ce que les visites des malades soient organisées dans le cadre du service évangélique des malades. Le responsable de cette communauté de proximité devra également veiller à ce que le journal paroissial soit distribué et, c'est important, et que l'enveloppe du denier de l'église soit proposée à tous les habitants. S'il existe là une école primaire, il faudra veiller à organiser les rencontres des familles pour l'éveil de la foi et le catéchisme. Pour que les églises communales soient clairement identifiées comme un lieu dédié au service de la foi, la communauté de proximité devra organiser des liturgies de la parole aussi souvent que possible, à la seule condition que ces liturgies ne soient pas en concurrence avec l'Eucharistie dominicale. Car le dimanche doit permettre le rassemblement de la paroisse pour l'Eucharistie. À ce propos, on peut envisager que toutes les cloches de la paroisse, dans toutes les communes, annoncent que la messe va être célébrée dans la paroisse, dans une église de la paroisse. On peut aussi penser à prier en bien d'autres occasions, visite à la crèche au temps de Noël, accueil des familles au moment de la Toussaint, célébration du souvenir le 11 novembre, méditation de la Passion pour les rameaux, méditation du chemin de croix pendant le carême, temps de prière mariale au mois de mai, etc. Notons bien que ces propositions de prière à l'église du lieu ne doivent pas rester privées. Elles sont faites au nom de la communauté tout entière. C'est pourquoi il sera bon de veiller à les annoncer également par une sonnerie des cloches. Il n'y a pas qu'à Cerisy qu'on sonne la cloche. Il serait bon que les responsables de ces communautés de proximité soient invités à se rencontrer une fois par trimestre pour relire leur manière de vivre. Et il est important que ces responsables comprennent qu'ils ne sont pas là simplement pour rendre un service à M. le curé, comme on l'entend encore trop souvent, mais bien pour assumer une mission ecclésiale au titre de leur baptême. Toutes circonstances égales par ailleurs, ce qui vaut pour les communes rurales peut valoir dans les quartiers urbains. Il faudra seulement s'adapter aux réalités de la ville, mais on peut chercher dans cette direction de communauté stable, selon les particularités des quartiers, pour des temps de prière, de formation ou d'animation pastorale. Sur la question des communautés ecclésiales de proximité fonctionnelle, il le développe, mais là je le résume seulement. Cela vaut surtout pour les hôpitaux, les maisons de retraite, les établissements d'enseignement. Il est important que ces équipes d'aumônerie ou d'animation pastorale soient connues et reconnues par la paroisse. Leur rencontre sur le plan du territoire devrait leur permettre de mieux intégrer les trois dimensions de l'expérience ecclésiale, le témoignage, la célébration et le service. Les aumôneries d'hôpitaux et les maisons de retraite, qui sont plutôt basées sur le culte, ont à se demander comment elles prennent en compte la formation de leurs membres et l'accompagnement des familles. Au contraire, les aumôneries scolaires, davantage sensibles à la formation et à la pédagogie, peuvent utilement se demander comment elles proposent la prière et les sacrements ou des engagements caritatifs aux jeunes qu'elles rassemblent. Sur, enfin, les communautés ecclésiales de proximité choisies, certaines de ces équipes sont établies en vue d'un service. Par exemple, une équipe du Secours catholique, du Comité catholique contre la faim et pour le développement, etc. Il est important que ces mouvements et ces différentes équipes se rappellent qu'ils ne sont pas seulement reliés à des structures diocésaines ou régionales ou nationales, mais aussi à une paroisse, et peuvent se constituer en communauté de proximité, connue et reconnue localement. Il est très utile que l'expérience vécue par ces équipes soit proposée à l'ensemble des paroissiens, et il est souhaitable également que ces équipes prennent l'initiative de proposer au moins ponctuellement des temps de prière, pourquoi pas dans l'église communale, pour contribuer à la vitalité de la paroisse en rencontrant les autres communautés de proximité. Enfin, pour aller plus loin, et c'est sa conclusion, pour être reconnue comme telle, une communauté ecclésiale de proximité devra mettre en œuvre trois aspects complémentaires de la communion et de la mission. D'une part, le service de la prière communautaire. Il ne s'agit pas simplement de faire naître un groupe de prière, mais de proposer un temps de prière ouvert à tous. Deuxième aspect, le témoignage de la foi et la formation chrétienne. Il s'agit d'encourager la participation au catéchisme ou de proposer des catéchistes, de soutenir les efforts de formation, de susciter des rencontres de partage de la foi. Et enfin, le service de la solidarité et de la charité, savoir être attentif aux solitudes, aux pauvretés, aux exclusions qui peuvent exister tout près. Sensibiliser à l'attention au service de développement à une échelle plus large. Il convient donc que la paroisse reconnaisse et officialise les diverses responsabilités nécessaires à la vitalité de ces communautés. leurs animateurs n'agissent pas en leur nom propre, ils doivent recevoir délégation de celui qui, avec son équipe d'animation pastorale, veille au bien commun de la paroisse, c'est-à-dire le curé. Mais en même temps, nous voyons que ces communautés de proximité appellent à une redéfinition du ministère ordonné. Comme on le voit dans les aumôneries d'hôpitaux, l'animation de ces équipes ne repose pas d'abord sur un prêtre. Ce sont des baptisés qui reçoivent mission pour l'animation, la prière et la formation. Mais il reste nécessaire que ces responsables sachent en référer au prêtre qui est chargé de les accompagner et à qui il revient habituellement de conférer les sacrements. Plus ces communautés se développeront, plus le ministère du curé devra donner priorité à l'appel et à l'accompagnement des responsables plutôt qu'à la gestion directe des communautés elles-mêmes, ce qui rejoint le ministère apostolique des origines. Enfin, en renforçant les communautés de proximité, nous rendrons un service éminent à toute la société, car celle-ci a besoin que l'on travaille à renforcer partout le lien social et à lutter contre l'immense fléau de la solitude. Ainsi, la paroisse deviendra cette communauté de communautés dont parle le pape François. Elle pourra se porter aux périphéries qui l'environnent, car aujourd'hui en France, nos périphéries sont à notre porte. Il suffit de traverser la rue pour devenir missionnaire de la bonne nouvelle du Christ. Hippolyte Simon, archevêque de Clermont.